Rádio Alfa. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusos que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1. Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Antonin est de retour, comment ça va?
Ça va super, Julie.
Écoute, moi de même, malgré la météo, on est là pour ramener le soleil dans votre cœur.
Exactement. Et Clarisse est avec nous, mais au téléphone. Ça va, Clarisse?
Ça va et vous? Je suis contente de vous retrouver.
On est très contente de te retrouver. Tu veux raconter un peu ce qui t'est arrivé ou pas?
Ah bah malheureusement, début de semaine, je me suis fait une luxation au genou. Donc voilà pourquoi je ne suis pas parmi vous. Mais j'ai hâte de venir.
Mais oui, nous aussi on a hâte que tu reviennes. Mais de toute façon, nos auditeurs auront évidemment ta rubrique Destino durant la première. On n'en dit pas plus et aussi l'actu sport. Tu restes avec nous comme durant cette émission. Et aujourd'hui au programme du coup culture, sport, musique et théâtre puisque nous recevons Alexandre Fournanch. Ça va Alexandre?
Oui, bonjour, ça va très bien.
On est très contents. Ça fait un moment que je voulais que tu viennes.
Merci. Plus.
Et là, en ce moment, tu joues tous les dimanches, Célio, dans la pièce Les Caprices de Marianne au guichet Montmartre dans le 14e arrondissement jusqu'au 29 mars. Restez avec nous pour en savoir plus. On en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec une musique sortie hier, Na Próxima Vida de Visinge, Atoa et Attitude 67.
Ela viu o pôr do sol, depois deu-me um beijo. Disse que era para sempre no seu coração. Mas não, 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 vai dar confusão.
O amor às vezes é confundido com um beijo solitário mesmo sem sentido. Mas não, 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 vai dar confusão. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel, ser fiel, mas só. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel, ser fiel, mas só. Na próxima vida. Na próxima.
A gente se beijou, carnaval em fevereiro. Achou que esse beijo ia durar o ano inteiro. Não, 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 já deu confusão. Na boca um gosto bom, com sabor de despedida. Espero que esse amor se encontre em outra vida. Amém, vai ser um bom, nossa confusão. Eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só. Na próxima vida eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só. Na próxima vida. Na próxima vida.
Na próxima vida.
Ela viu o pôr do sol, depois deu-me um beijo.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Tempestade de Sponton et j'ai deux événements à vous présenter, mais avant cela, je voulais faire un rappel puisque vous savez que la tempête Christine a durement touché Portugal et a laissé de nombreuses familles dans une situation d'urgence. J'espère d'ailleurs que vos familles vont bien, que vous avez réussi à les contacter. Il y a eu des problèmes de, beaucoup de problèmes de réseau. Donc j'espère pour vous qui nous écoutez que tout va bien. En tout cas, l'association Tod Junge France a lancé une campagne de dons pour venir en aide aux victimes et soutenir les actions menées sur le terrain. Vraiment, chaque don compte, même le plus petit, et on peut faire la différence ensemble. Donc n'hésitez pas à aller retrouver la cagnotte partout sur les réseaux sociaux de Radio Alpha et sur le site aussi de Radio Alpha. Et un merci à toutes les personnes qui participeront et qui soutiendront nos familles au Portugal. Pour des trucs un peu plus joyeux, samedi dernier, le 24 janvier, donc, la reine du fado contemporain était en région parisienne pour son premier concert de l'année 2026. Je parle évidemment de Marisa, qui se reprend à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. La grande salle où elle a chanté pouvait accueillir jusqu'à 2000 personnes assises, qui étaient quasiment remplies. Marisa nous a fait un show incroyable, revenant sur l'ensemble de sa discographie, accompagnée par de nombreux artistes instrumentistes, comme une guitare portugaise, mais aussi une basse et une batterie, donc très impressionnant pour du fado. Elle nous a même proposé du chant sans micro, comme dans les cases estfades, mais imaginez, même de loin, on l'entendait.
La scène musicale, ça quelque chose.
Même de loin, on l'entendait pas très fort, mais on l'entendait. Sa voix est vraiment formidable, c'était un très beau moment. Bref, c'était un super concert dans une super salle. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de regarder la programmation de la scène musicale de manière générale, parce que ça vaut le coup. Et parfois, il y a des petits prix en plus, donc c'est toujours sympa. Et ce soir, Isabelle Ribeiro, Danninger, Simon Quintana joueront la pièce Saudade ici et là-bas au théâtre Gérard Philippe de Champigny-sur-Marne. Les 500 places du théâtre sont quasi pleines, mais vous pouvez encore tenter d'obtenir les dernières. Pour rappel, Saudade ici et là-bas est une pièce écrite par Isabelle Ribeiro, mise en scène par Alexis Dessau. C'est une pièce musicale sur le déracinement et la transmission. La vente de la famille familiale au Portugal permet aux frères et sœurs de revenir sur des souvenirs de famille, sur l'immigration familiale, en confidence et en chanson. Chacun découvre la Saudade qu'il porte en soi. On voyage physiquement, mentalement, mais aussi dans le temps. C'est vraiment une très belle pièce qu'on recommande vivement sur Themestade de Chponton, et on va s'écouter d'ailleurs le teaser.
Une partie de moi veut garder cette maison, mais je sais que c'est pas raisonnable. La belle maison qu'aujourd'hui tu veux vendre, j'en connais pas l'histoire. L'histoire du Portugal ou l'histoire du... Bah, les deux finalement.
Ton grand-père était mort, ta grand-mère chantait.
Dona Hilda Vian.
C'est les mondes qui avaient.
Et venait de famille pauvre, il n'y avait qu'une perspective, fuir la misère.
Je connais des gars qui s'organisent pour partir.
Je te plaît, tu crois que tu vas les réaliser comme tes rêves. En partant, en me laissant.
Par ce soir, à la mémoire de tes grands-parents, grands artistes. J'ai tellement la Saudade de papa et maman.
C'est quoi la Saudade, Auguste?
La Saudade? Jamais je ne pourrai t'oublier.
Ça donne envie, hein, franchement. Et Liana y va ce soir. Ouais. D'ailleurs, c'est une pièce qui tourne encore, donc n'hésitez pas à suivre Danninger et Isabelle Ribeiro. D'ailleurs, gros bisous à eux. Alexandre, toi, tu l'as vu cette pièce?
Tout à fait. Il y a 3 ans, en banlieue parisienne, beaucoup aimé. Et surtout, j'ai ce souvenir-là qui vient de me revenir, c'est que je crois que sur la rangée devant moi à droite, il y avait 2 petites mamies qui ont beaucoup commenté le spectacle tout du long, mais pour le coup, ça me dérangeait pas du tout parce qu'en fait, dans leurs commentaires, il y avait tellement d'identification douce et tendre que c'était plus mignon que dérangeant. Ouais.
Et ouais, c'est vraiment une très belle pièce. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais le fait que ce soit à Champigny.
Ouais. C'est... Ça a beaucoup de sens. Parce que je dis pas de bêtises, c'était la ville des bidonvilles.
Des bidonvilles portugais, exactement.
Et c'est aussi la ville d'origine de Danninger. Donc
oui. Ah oui, voilà. Je savais pas ça. Ah ouais, ok.
Ouais, c'est vrai. Et en plus, ça tombe aussi le lendemain du jour de la Saudade,
oui.
Du coup, qui était hier.
C'est vrai.
Donc finalement, il faut vraiment prendre vos places pour ce soir, si vous n'avez pas déjà vu cette pièce. Et Liana nous racontera ça la semaine prochaine. Comment qu'est-ce qu'elle en a pensé?
C'est noté.
Et d'ailleurs, d'ici 5 minutes, Liana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une musique interprétée par notre jeune Mariana Portugal. Il ne s'agit pas d'un fado, cette fois, mais d'une musique de Pedro Brunhosa et Sara Correia, que vous connaissez tous très bien. Tout de suite, Que o amor te salve nesta noite escura, par Mariana Portugal.
Te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chorar quando a voz se apaga. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo. Que o amor nos salve, que amanhã levante a rosa dos ventos e um cerco apertado a palavra guerra. Ninguém nesta terra é dono do tempo, não é deste tempo que chama, que espera. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. subir a parte do tempo que o amor nos dá, porque há uma luz que chama e outra luz que cala, e há uma luz que é nossa. O princípio do mundo começou agora, semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada para deixar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do tempo que o amor nos dá. Ainda há luz na estrada, podes subir à porta do tempo que o amor nos dá. Podes subir à porta do tempo que o amor nos dá. E há uma luz que chama e a luz que calma, e há uma luz que é nossa.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Themestadt de Spontan. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative avec Liliana. Alors, quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui ?
Alors, avant de commencer à vous parler du sujet dont je vais vous parler, j'avais quelques petites questions. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du luxe français ?
Alexandre ?
Le luxe français... je suis assez admiratif. Personnellement, ouais, j'ai quand même l'impression que, même si c'est des choses qui sont un peu inatteignables pour moi, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'excellence. Mmh. Où c'est tellement, par le terme de luxe, c'est tellement parfait que je suis admiratif. Mmh. C'est quelque chose qu'en fait, c'est quelque chose que je vois et qui m'importe. Et je pense notamment à quand je vais me balader, les rares fois où je vais me balader aux Champs-Élysées, il y a la rue Montaigne peut-être avec la Bounelle, Dior. Et notamment la boutique Chanel, en fait, tu te rapproches et tu vois à quel point c'est des orfèvres, à quel point c'est délicat. Mmh. Et c'est vrai que d'un point de vue artisanal, voilà, c'est ça. L'artisanal du luxe me séduit. Enfin, ouais, je respecte beaucoup ça.
C'est hyper intéressant.
Ouais. Et d'ailleurs, tu as sorti un mot qui est très parlant par rapport à ce que je vais dire, c'est le mot artisanat. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais le mot haute couture. Donc, tout ce qui est fait à la main et de grande qualité est réservé d'ailleurs au savoir-faire français.
Okay.
Donc, on parle d'autres coutures qu'en France.
Ah ouais,
ça pour d'autres pays. D'ailleurs, c'est à Fashion Week, là, encore, non ?
C'est possible.
Ouais. Ouais. J'ai des potes qu'on croise hier, on l'a dans le marais, des designers assez connus. C'était assez légendaire.
On est dans le thème.
Vraiment.
Et du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un projet qui associe le luxe français et le Portugal ?
Il y a quelques années, je crois que c'était Boutin peut-être qui avait utilisé du cuir du Portugal, si je ne dis pas de bêtises.
Et bien bah, si, et presque. Chose. Je crois que c'est ce dont je vais parler, mais ce n'était pas du cuir. Enfin, je vais tout s'expliquer.
Okay. Alors... Pardon.
Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà, si vous avez déjà eu l'occasion de nous écouter sur le podcast Plus 351. Mais il y a quelques jours, avec Julie, on a interviewé Ricardo Machado Carvalho, le coordinateur de l'écomusée de Ribeira de Pena, donc dans le nord du Portugal. On a parlé du musée du lin de Limões, et de cet artisanat très ancien, et aussi de ses enjeux actuels, surtout de son histoire qui est assez incroyable, et surtout d'une histoire qui est assez incroyable qu'il nous a racontée. C'est une info dont j'avais déjà entendu parler, mais qui à l'époque avait eu très peu de retombées médiatiques, et franchement, ça m'avait toujours semblé étonnant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce petit secret. Alors on remonte à 2019. Cette année-là, un sac de luxe créé par Christian Louboutin intègre des franges et des tissus réalisés sur des matières sur des métiers à tisser très traditionnels, pardon, donc à Selve et à Limonish. Ce sont des petits villages, pas très loin de Villarreal, qui font partie de la municipalité de Ribera de Peña. Et à ce moment-là, on peut, peu de gens imaginent qu'un savoir-faire ancestral de cette région est sur le point de faire le tour du monde. Je vous laisse écouter un interview avec Ricardo qui explique ce projet.
O Bonterreal produziu uma carteira de edição limitada com as nossas tecedeiras. Elas produziram por uma parte dessa carteira e foi um sucesso que a carteira esgotou em 24 horas. No dia que foi lançada, esgotou logo. Isso é mais um exemplo da reinvenção que se tem que ter ao linho. E era aquilo que falava antes, precisamos dar uma nova roupagem, uma nova imagem, produzir peças diferentes. E a carteira do Louboutin é um exemplo disso.
Alors, ce dont Ricardo Carvalho parle, c'est le Portugaba, un sac d'édition limitée pensé comme un hommage au Portugal. On y retrouve le lin artisanal de Selva e Limões, associé à d'autres artisanats traditionnels portugais. Résultat, le sac est épuisé en moins de 24 heures et surtout, il projette sur la scène internationale un patrimoine qui, pendant des décennies, semblait presque voué à disparaître. Cet épisode est devenu un symbole très fort du potentiel du lin de Ribera de Peña. C'est un art profondément enraciné dans le territoire, mais qui, sans perdre son authenticité, peut s'affirmer aujourd'hui comme une véritable matière première pour la création contemporaine. Et c'est précisément dans ce contexte qu'est née l'idée de classer le lin de Selva e Limões comme patrimoine culturel immatériel, une étape clé pour protéger et valoriser et faire rayonner ce savoir. À Ribera de Peña, dans le district de Villarreal, le lin, ce n'est pas juste un artisanat traditionnel. Pendant des siècles, le bruit régulier des battements des métiers à tisser a rythmé le quotidien de plusieurs villages, pendant que les champs se couvraient du bleu de la plante du lin. Et dans des endroits comme Limões, le cycle complet existe encore aujourd'hui. De la semence jusqu'au tissage, on y présente des gestes, des techniques et des savoirs transmis de mère en fille. Le musée du lin de Limões, qui fait partie de l'écomusée de Ribera de Peña, joue d'ailleurs un rôle essentiel dans cette transmission. Ce qui est intéressant, c'est que il travaille directement. Le musée devient donc un lieu vivant où le patrimoine n'est pas seulement exposé derrière une vitrine, mais réellement pratiqué et partagé avec le public. Selon Ricardo Carvalho, la candidature du lin au patrimoine culturel immatériel répond à deux grandes nécessités: préserver la mémoire collective et assurer la continuité de cette tradition. Une telle classification permettrait de reconnaître officiellement la valeur culturelle du lin, de renforcer sa protection, d'augmenter la visibilité du territoire, de valoriser le travail artisanal. Et surtout, ce n'est pas juste un label symbolique, c'est un véritable outil stratégique capable de soutenir l'économie locale, d'encourager de nouveaux apprentissages et de limiter le risque de disparition de cette pratique. Dans une commune marquée par le vieillissement de la population et le départ des plus jeunes, reconnaître le lin comme un patrimoine immatériel peut vraiment créer de nouvelles dynamiques culturelles et économiques, capables de fixer les savoirs et l'identité locale. Mais préserver ne veut pas dire figer. Aujourd'hui, il est devenu presque impossible de vivre uniquement de la production de nappes ou de couvre-lits. Les pièces qui sont clairement tombées en désuétude, elles sont clairement tombées en désuétude. La réponse, c'est donc l'innovation. Les artisanes se tournent vers la création d'accessoires, de vêtements, de sacs, d'écharpes, des serviettes de plage ou encore des sacs ou des tissus pour des défilés de mode. Elles explorent de nouvelles couleurs, de nouvelles applications fibres. Et cette réinvention qui est en train de naître permet de maintenir ce métier en activité, de toucher de nouveaux marchés et attirer des publics plus jeunes, tout en restant fidèles aux techniques traditionnelles. Les collaborations avec des designers, des stylistes d'universités ou des écoles d'art seraient essentielles pour créer ce dialogue entre tradition et création contemporaine dans le respect des savoir-faire locaux. Et évidemment, la collaboration avec Christian Boutin est l'exemple le plus emblématique de ce potentiel. Les tisserandes de Selva e Limão travaillaient le lin côtelé et les franges intégrées au sac Portugaba, une pièce qui a réuni plusieurs arts traditionnels portugais et qui s'est inscrit dans une certaine mesure dans l'univers du luxe international. Pour les artisanes de ces villages, ce projet a été à la fois une reconnaissance de leur travail, une exposition mondiale totalement inattendue, et le succès du Portugaba montre d'ailleurs que le luxe contemporain valorise de plus en plus l'authenticité, l'histoire, le travail manuel et la durabilité. Dans un monde où le design et le luxe recherchent des récits authentiques et des processus artisanaux, le Lind Ribeira de Pena paraît comme une ressource unique. Le territoire, l'histoire et les personnes qui le travaillent ajoutent une valeur symbolique qui est au-delà de l'objet final. Associer ce patrimoine à des projets contemporains, c'est à la fois garantir la durabilité économique des artisans, renforcer l'identité culturelle portugaise et la faire rayonner au-delà des frontières. Ici, l'innovation n'est pas une menace, c'est la meilleure alliée de la tradition. La tentative de classification du lin de Selva e Limões comme patrimoine culturel immatériel est donc une étape décisive. Mais son avenir dépendra surtout de notre capacité à continuer de tisser des liens entre des générations, entre le territoire contemporain et entre la tradition locale et les marchés mondiaux. À Ribeira de Pena, le lin reste un fil vivant, un fil qui relie le passé et le présent et qui, avec un peu de créativité, de vision et de sens, peut encore dessiner de très beaux futurs.
Merci beaucoup Liliana. Alexandre, c'était donc cette pièce à laquelle tu pensais ou pas?
Non, en fait je sais pas si j'avais vraiment vu de pièce, mais c'est très beau en tout cas.
Ouais.
Tu as pu me montrer.
On vous montrera tout ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Merci beaucoup Liliana pour cette belle présentation.
Avec plaisir.
Restez avec nous donc d'ici moins de 5 minutes, nous partons en voyage avec Clarisse. Tout de suite, je vous propose d'écouter le dernier single de Maro, sorti hier. Maro, qui sera d'ailleurs en concert en mars en région parisienne. Tout de suite, Drown de Maro.
How was I supposed to guess that it was entertaining? Just a chance to really mess with someone's head, it's draining. I'm waiting for the time I seem to not recall. Then maybe I will find some peace, cause after all, he came and rocked my world and he flipped it upside down. Oh baby, now you're gone, feels like I'm about to drown. Seeing all these pictures with you always around. Oh baby, now you're gone, feels like I'm about to drown, yeah. Come and tell me all the feelings. Fly across the country for me, then go disappearing. I don't really understand. Why would you go out of hand to really mess with someone's head? I find it kind of sad. Waiting for the time and seem to not recall. Then maybe cause after all, you came and rocked my world and you flipped it upside down. Oh baby, now you're gone, feels like I'm about to drown. Seeing all these pictures with you always around. Oh baby, now you're gone, feels like I'm about to drown. Yeah.
temos estado dos pontos 1 na rádio que nos liga. Chegou a tempo para o destino da Clarice. Então, onde é que viajamos hoje, Clarice?
Para já, queria dar um beijinho e um pensamento a todos aqueles que viveram a tempestade de Leiria. O meu padrinho, eu sei que estás a ouvir, portanto, um grande beijinho para ti e para a tia e para todos aqueles que sofreram com esta tempestade. Mas hoje vou tentar, portanto, fazer-vos viajar um bocadinho, porque se na semana passada o passaporte nos levou numa viagem épica pelas paisagens do Extremo Oriente, hoje o convite é para uma viagem de uma natureza um bocadinho diferente. Hoje não se atravessam fronteiras geográficas, mas sim a cortina de veludo de um palco antigo. Diga-me uma coisa, já sentiu aquele arrepio quando as luzes de uma sala de espetáculos se apagam e o silêncio se instala mesmo antes da música começar? Aquelas pessoas que o mundo do espetáculo, que se emociona com as luzes, com o cheiro da maquilhagem nos bastidores e com a energia vibrante da dança, então esta crónica foi escrita propositamente para si. Regressamos, portanto, a Portugal, ao nosso cinema, para falar de uma ideia que é, na verdade, uma grande homenagem a todos os artistas e sonhadores, o Pátio da Saudade. Não sei se alguém já viu este filme, mas eu sou um preferido da Lourdes, portanto um grande beijinho para ti. Com 1 hora e 35, este filme lembra-nos que a arte tem o poder de recuperar não só edifícios, mas também a alma de uma comunidade. Imagine que recebo uma notícia inesperada. Herdou de um teatro, mas não penso num auditório moderno e frio. Penso num teatro de bairro, degradado, escondido numa tia afastada que o tempo acabou por levar. Este, portanto, o ponto de partida da vida da Vanessa, a nossa protagonista. Quando ela entra naquele espaço pela primeira vez, o cenário é desolador. Há pó nas cadeiras de veludo, as teias de aranha aos cantos de camarins e o teto parece querer contar histórias de glórias que já ninguém recorda. O seu agente, um homem pragmático e focado apenas, dá-lhe o conselho que qualquer pessoa sensata daria. Vende isso, Vanessa, é um monte de entulho, esquece esse sonho e foca-te na tua carreira. Mas quem tem um bichinho de palco sabe que a sensatez não tem lugar no coração de um artista. Contra todos os conselhos, Vanessa decide ficar. Decide que aquele teatro não vai virar um parque de estacionamento ou um prédio de luxo. É aqui que o filme ganha uma cor maravilhosa. Vanessa junta os de sempre, músicos, bailarinos, técnicos de luzes, que já ainda desistiram das suas carreiras, para devolver o brilho ao teatro. Para quem adora o mundo do espetáculo como eu, estas cenas são mesmo o coração do filme. Vemos o processo árduo dos ensaios, vemos os bailarinos a repetir a mesma coreografia até a exaustão, as discussões criativas, o esforço de pintar cenários com o pouco dinheiro que têm. O realizador de O Pátio da Saudade faz também questão de mostrar que o teatro não é apenas o momento do aplauso final, é a união da família que se cria na penumbra. Se gosta de ver a beleza de um movimento de dança que nasce do nada, ou um momento em que as luzes da ribalta se acendem pela primeira vez, depois de anos de escuridão, vai sentir-se em casa, porque o filme capta esse pó mágico que só existe dentro de uma sala de espetáculos. É um elogio à resistência da cultura. Mas, como em qualquer boa peça de teatro, não é? O drama está sempre presente. Vanessa e os seus amigos não estão sozinhos nesta luta. Existe um dono de um teatro rival, um homem poso e amargo que vê na recuperação daquele pátio uma ameaça ao seu pólio. Ele não quer apenas que a Vanessa falhe, ele quer provar que o sonho dela é impossível. E aqui o filme entra num registro de suspense e sabotagem. Este rival representa o lado frio do negócio, aquele que tenta apagar a luz dos outros para brilhar sozinho. Diga-me lá, já sentiu que o seu sonho estava a ser sabotado por alguém que não compreende a sua paixão? É impossível não torcer por este, este grupo de artistas enquanto eles enfrentam as armadilhas de quem só pensa em números. Portanto, o título do filme, O Pátio da Saudade, é muito simbólico. Muitas vezes dizem-nos que saudade é um sentimento que nos prende ao passado, mas neste filme, a saudade é o motor para o futuro. É a memória do que o teatro já foi que dá força à Vanessa para o reconstruir. Não se trata de viver no passado, mas de honrar quem ali esteve antes de nós. É, portanto, uma viagem sobre a continuidade da arte. Para quem sente que o palco é um lugar sagrado, este filme será uma experiência profundamente emocionante. Pessoalmente, eu adorei este filme e passamos mesmo 1h35 de alegria, do início até ao fim. Portanto, se esta semana precisa de uma dose de esperança, se quer viver como o teatro pode salvar uma vida, o seu caminho está traçado. Procure então o filme O Pátio da Saudade. Deixe-se contagiar pela coragem deste grupo de amigos que acredita que enquanto houver uma luz acesa no palco, o espetáculo tem de continuar. Deixe-se, portanto, guiá-lo pela magia das luzes e percorra os corredores deste teatro através do olhar de quem ama o espetáculo. Sinta a poeira mágica do palco, a agitação dos bastidores e a força de um sonho que se recusa a apagar. Esta semana, o destino é o palco, o destino é o pátio da saudade. Leva a sua alma de espectador, escolha o seu lugar na plateia e deixe que a cortina se abra. Boa viagem e bom filme!
Muito obrigada, Clarice. Eu acho que esse filme deve-te falar muito, Alexandre, não é?
Sim, claro.
Já o viste?
Não.
Tens
não
que o ver. Agora já tens que o ver. Obrigada, acho que Clarice já tens uma pessoa que compreendeu bem o que tu estavas a dizer, não é?
Claro.
Fique connosco porque continuamos no mundo do teatro. Daqui a 5 minutos teremos a entrevista então com Alexandre Fernandes. E antes disso, proponho ouvir um novo featuring português saído ontem: Leva-me, de Rita Rocha e Kirchlands.
Sem discordar, odeias que corto o cabelo, mas foram só 3 dedos. Tu dizes deixa crescer, eu reclamo, mas adoro-te por reparar. As mesmas séries, as mesmas músicas, mesmas piadas estúpidas, um amor que não magoa. E se alguém não gostar de ti, eu não gosto dessa pessoa. Se eu só sei gostar de ti, assim eu sou essa pessoa. Lá vem-me buscar a casa, deixei a porta encostada. Vieste e trouxeste a mala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Lês o que o silêncio fala. Se eu falar mais tu cala. Senti-te entrar na sala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Esta mala, vem, leva-me para onde tu quiseres. Lês o que o silêncio fala. Se eu falar mais do calma, senti-te entrar na sala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Lá vem buscar a casa, deixei a porta encostada. Vieste esta mala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Lês o que o silêncio fala. Se eu falar mais do calma, senti-te entrar na sala.
C'est une stade de Spontan sur Radio Alpha. Vous arrivez à temps pour l'interview avec Alexandre Fernandez. Mmh. Alors Alexandre, tu es comédien depuis plusieurs années. Tu te donnes également des cours désormais. Oui. Tu es luso-descendant. Mmh. D'ailleurs, on s'est rencontrés lors de la rencontre européenne des jeunes luso-descendants de Cap Magellan en août 2024.
Ouais.
Et ce que je peux affirmer de toi, c'est que tu es un passionné.
Ouais, ouais, je pense, oui.
Oui, je suis sûre. Et d'ailleurs, en début d'heure, tu joues actuellement le rôle de Célio dans la pièce Les Caprices de Marianne, tous les dimanches au Montparnasse.
Montparnasse, oui.
Jusqu'au 29 mars. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places, déjà, premièrement. Alors, comment ça se passe pour l'instant, les représentations?
Ça se passe bien. Alors, toi, tu étais venue à la toute première.
Ouais.
Donc, c'était un petit peu la présentation du bébé, l'éclosion de l'œuf. Là, on a des deuxièmes dimanche dernier, qui étaient intéressamment différentes.
Ah ouais?
Ouais. On a dû rajouter des chaises. C'était vraiment, on était quasiment complet. Ça, c'était assez chouette. Et puis, donc là, il y aura la troisième. C'est assez particulier de jouer une fois par semaine parce que c'est un peu un one shot. C'est-à-dire que t'as eu toute la semaine, t'as repensé à ce que t'as fait, tu viens pendant la semaine, forcément, t'as fait d'autres choses. Et là, t'arrives. Et le théâtre, c'est vraiment ça. C'est la différence du théâtre avec le cinéma. C'est que c'est un, ouais, un one shot, un instant T. Tu donnes ce que t'as avec ce qui t'a nourri. Et donc, la deuxième était, ouais, agréablement différente. De la première et la troisième encore.
Chaque représentation est différente parce que le public donne pas la même.
Ouais, tout à fait. Parce que nous aussi, parce que on commence aussi à mettre, à sentir nos énergies par rapport aux comédiens, par rapport aux personnages et à chaque fois, ouais, c'est différent. Ouais.
Et quels sont les retours en général? Pour l'instant.
Pour le moment, ils sont plus longs. Sur Billets Réduc, où vous pouvez réserver votre place. On a déjà, je crois, une dizaine d'avis. Alors forcément, c'est les rôles principaux qui récupèrent les lauriers. Moi, je ne suis qu'un petit rôle secondaire. Mais c'est pas grave, j'ai toujours eu un cœur de défendre même des petits rôles secondaires. Pour moi, il n'y a pas de différence.
Après, c'est lui, il est quand même vachement important dans la pièce. C'est vrai que c'est pas toi qui joue le plus, mais on parle de toi tout le temps, quoi.
Oui, c'est ça. Je suis une vocation permanente.
Et d'ailleurs, toi, t'es le seul à jouer de la guitare là-dedans.
Ouais, alors ça, pour le coup, les gens en parlent beaucoup. Les gens, ils kiffent. Ils me disent, oh, la guitare, ça marche très bien.
Et pourquoi vous avez voulu ajouter la guitare? C'était déjà dans la pièce de Musset ou pas?
Aucunement. Alors, dans la pièce de Musset, il y a quelques évocations, effectivement, à des guitares. Qui est peut-être plus du côté de Octave. Non, c'est plus le metteur en scène qui me connaissait, qui savait que je faisais de la guitare, donc il m'a dit, sors ta guitare et fais des accords.
D'ailleurs, comment t'es arrivé dans cette aventure?
Tout à l'heure, vous parliez de l'Opéra de Paris, il me semble. Je sais plus qui en parlait. Mais le metteur en scène, justement, vient de l'opéra.
Okay.
Il travaille avec le jeune corps de ballet. Et là, du coup, il va justement faire le père de Roméo et Juliette dans la prochaine production de l'opéra Roméo et Juliette.
Wow.
Ouais. C'est un ancien danseur et d'ancien comédien. Enfin, toujours, il joue toujours. Jean-Marie, si tu m'entends, pardon. La compagnie s'appelle La Compagnie des 400 coups. Elle a été écrite aussi par Jean-François qui joue Claudio. La compagnie a, je crois, une vingtaine d'années. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça fait 15 ans qu'ils jouent au guichet Montparnasse.
Waouh!
Ouais. Donc, ils connaissent très, très bien la maison. D'ailleurs, cette année, il y a un changement de direction dans le théâtre. C'est un peu relié à ce que racontait Clarisse, c'est ça? C'est qu'effectivement, à chaque fois dans le théâtre, il y a la vie à part entière du théâtre et la vie des coulisses aussi. Donc, en fait, c'est Jean-Marie qui m'a rencontré parce que j'avais eu la chance en 2019 de faire de la figuration à l'opéra, ce qui est une expérience incroyable. Et je m'étais bien entendu avec Jean-Marie, et après ça, on se voyait de temps en temps. Et en fait, pour tout vous raconter, j'ai voulu mettre en scène Les Caprices de Marianne. Il y a 2-3 ans, et j'avais commencé, je voulais faire une version très rock, ultra moderne. Justement, je voulais que Marianne fasse de la guitare électrique.
Mais il n'est pas sur ça.
Voilà. Mais voilà, on n'est pas du tout là-dessus, effectivement, il serait quelque chose de beaucoup plus classique. Et au final, donc, du coup, vu que j'avais cette idée-là, j'avais vu Jean-Marie pour lui en parler. Finalement, l'idée ne s'est pas faite et je m'ai recontacté pour, alors du coup, gros teasing, pour adapter une pièce sur la mort de Pasolini. C'est une pièce très intéressante. Malheureusement, Jean-Marie n'a pas eu les droits à temps, ce qui fait que du coup, il a dû rebondir sur une autre pièce. Donc, Les Caprices de Marianne et normalement, Pasolini se fera l'an prochain parce qu'entre-temps, il a su qu'il avait les droits.
Okay.
Ouais, mais finalement, c'est que du, je dirais pas le terme de réseau, mais c'est des connaissances. Parce que c'est Jean-Marie qui du coup a pensé à moi pour ta date.
Et par rapport au rôle de Célio, du coup,
ouais.
Comment est-ce que toi, tu le prépares? Comment tu te mets dedans? Est-ce que déjà, tu le connaissais avant?
Oui. Donc, du coup, je le connaissais déjà depuis, depuis 10 ans, en fait.
OK.
Parce que quand
j'avais lu la pièce.
J'avais la pièce quand j'étais en lettres modernes à l'époque. Et après, quand je suis monté à Paris pour faire mon école de théâtre, j'ai joué. Par contre, du coup, je jouais Octave, c'est drôle. J'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas, cette pièce m'a toujours fasciné. Musset, de manière générale, m'a toujours un peu fasciné parce que il a écrit un livre, un roman, c'est pas un, c'est une autobiographique qui s'appelle La confession d'un enfant du siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que du haut de mes 20 ans, moi qui ai tout savoir sur l'amour, la vie et le monde, je lisais quelqu'un qui semblait avoir compris le désespoir de mon malheur. Voilà. Du coup, cette écriture m'avait beaucoup touché. Et par rapport à Célio, par rapport au personnage, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'en fait, Célio est représenté par une sorte de ferveur ou d'absolutisme romantique, de grands idéaux, de manichéisme. Non, on ne peut pas dire manichéisme. Enfin bref, c'est un gars, c'est un ouf, quoi. Ouais. C'est un ouf de l'amour, en fait. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans les concessions. Donc,
je pense qu'aujourd'hui, il passerait un peu pour un fou, quand même. Qui donne tout pour avoir Marianne, pour ceux qui connaissent pas la pièce. Il donne un peu trop tout pour avoir Marianne. J'ai un peu un stalker, quoi, finalement.
Ouais, exactement. Ouais.
Il va chanter à sa fenêtre.
C'est ça. Ça. En fait, il se fait ghoster et il n'arrête pas, effectivement. Il continue. Alors, de là à dire que c'est un forceur, bon, je ne pense pas quand même. Mais effectivement, il est un peu obsédé, le petit, ouais.
Et est-ce que toi, tu préfères en général jouer des rôles qui te ressemblent ou qui sont ton opposé? Enfin, comment tu vois déjà Célio par rapport à toi? C'est difficile comme question, effectivement.
Comment je vois Célio par rapport à moi?
Ouais.
Avec une certaine distance, paradoxalement. C'est-à-dire que Célio, si c'est le malheur amoureux, et que je vais vraiment chercher ça au fond de moi, pour être sincère, ça fait mal. Tous les dimanches, je ne peux pas aller dans le fond de mes entrailles rechercher mes dernières ruptures. Ce n'est pas possible. Il y a Jouvet qui disait « L'addiction entraîne le sentiment ». Cette phrase, elle est importante pour moi parce que, en fait, je considère qu'en disant les mots du texte, et notamment la langue du Musset, qui est une langue très bien écrite, ça nous amène le sentiment. Donc, en fait, je suis plus partisan d'aller chercher par l'extérieur, par la connexion avec le public, par la connexion avec son partenaire, cet état-là. Voilà. Plutôt que, parce que franchement, si à chaque fois je dois être déterré, c'est. Alors après, chaque école a ses méthodes différentes. Ça, c'est justement l'acteur studio qui fait ce truc-là d'aller chercher en soi, de travailler la mémoire sensorielle et tout. Les Américains font beaucoup ça.
Oui.
Moi, c'est pas forcément mon cas. Même notamment, j'ai pu jouer Hyde il y a quelques mois. Bon, si je commençais à devoir m'identifier à Hyde, aller chercher des trucs terribles. Non, en fait, paradoxalement, je. Ouais, voilà, j'ai la réponse. Je mets une certaine distance, et en fait, surtout, je vais le chercher par le corps. C'est par la posture et les éléments extérieurs que je vais chercher mon personnage et l'état.
Donc, en fait, quand tu joues sur scène, t'es pas le même que dans la vraie vie du tout, quoi. Et tu oublies Alexandre, en fait.
Ouais, complètement. Ouais, okay. Ouais, il y a vraiment, pour le coup, il y a vraiment, je vais même dire un truc, je pense qu'Alexandre, dans la vie normale, est assez timide, peut-être un peu réservé. Alors j'ai vraiment construit une espèce de d'autre Alexandre qui c'est hyper schizophrénique. D'autre Alexandre qui est le Alexandre de scène, effectivement. Mmh. Mais même ne serait-ce qu'au niveau de la voix ou de l'articulation, je vais pas parler ou projeter de la même manière.
Ok, je vois. J'ai deux dernières petites questions pour cette première partie. La première, quelle est la pièce de rêve dans laquelle tu aimerais jouer et est-ce que c'est une pièce lusophone? Parce que là, on parle de France depuis tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne question. Alors, je vais botter un peu en touche. J'ai jamais lu les Lusiades. J'ai essayé plusieurs fois, franchement.
C'est vrai que c'est compliqué.
Ouais. En plus, j'ai une belle édition bilingue et tout, mais non, ça, j'y arrive pas.
Ouais.
Je sais que c'est un peu l'œuvre monstre ou l'œuvre phare de la culture portugaise.
L'épopée.
Il y a aussi Pessoa.
Mais ça peut être plus contemporain, par exemple. Une dernière pièce lusophone qui t'a marqué, j'allais te demander, on en parlait tout à l'heure.
Exactement, By Earth de Tiago Rodrigues, que j'ai adoré. J'y suis allé tout seul, je suis allé à Sergi Pontoise tout seul pour voir la pièce. Et j'avais jamais vu, justement, pendant le Covid, j'avais vu une retranscription. C'était pas mal, mais là, vraiment, ça m'a tué. Désolé d'employer ce terme-là, mais premièrement, ça nous parle. Parce que c'est le Portugal, parce que c'est le village, c'est les aldeias, c'est Assuavo, ou l'art d'Assuavo. Et en fait, c'est une poésie, il amène du Shakespeare, le sonnet 30. Il raconte, désolé, je prends un peu de temps, mais il raconte cette histoire-là. Enfin, de le réalisateur de Docteur Jivago, qui, pendant l'ère stalinienne, en fait, a dû assister pendant une semaine à une sorte de semaine de commémoration de Staline. Et tous ses amis lui ont dit, on va t'exécuter, si tu parles pas, tu seras exécuté. Il a assisté à la semaine, et les deux derniers jours, il ne disait rien. Ses amis lui disent, bon, écoute, vu que tu dis rien, vas-y, parle. Et le mec, s'est levé. Il a juste dit le sonnet 30. Et le sonnet 30 de Shakespeare, apparemment, est un sonnet connu par tous les Russes. Et les 2000 Russes de la scène, à ce moment-là, se sont levés et ont tous déclamé ce même poème. Et donc, du coup, Byerth, il raconte beaucoup mieux que moi, même. Voilà. Mais il a cette même passion. Tu parlais de passion tout à l'heure. Finalement, c'est ça. Et en fait, ce qu'on ressent chez Thiago Rodrigues, c'est cette générosité humaine et artistique qui est indispensable dans le spectacle vivant, je crois.
Bah, tu vois, tu pourrais par exemple participer à une de ces pièces, l'usophone.
Alors, ce qui est fou, c'est que quand on rentre, il y a 9 chaises libres et il fait venir 9 personnes sur scène. Et franchement, effectivement, l'idée m'a traversé l'esprit de « Ouais, Alex, est-ce qu'on y va ?» Et je suis dit « Non, tu restes à ta place. » Et donc, du coup, il y a 9 personnes qui sont venues. Et... Bref, Byerth.
Allez le voir.
Allez voir
aussi Les Caprices de Marianne tous les dimanches. On continue cette interview d'ici 5 minutes. On parlera plus largement de ton parcours dans le monde du théâtre. Et tout de suite, on s'écoute une musique que tu as choisie d'amis à toi.
Oui.
C'est Music Television de Vision Paname.
Ouais, un gros bisou à Sébastien et à Estelle.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Chponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec le comédien Alexandre Fernandez. Alors Alexandre, pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient être comédiens, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours tout simplement?
Mon parcours, j'ai grandi dans le sud de la France. Puis après le bac, franchement, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est vraiment un truc de... Mes parents sont profs et j'étais pas foncièrement bon à l'école. C'était un peu compliqué. Et par contre, j'ai eu la grande chance, et si jamais ils écoutent cette émission, André et Maïka, je vous embrasse chaleureusement. André et Maïka, je les ai connus, je les ai rencontrés quand je devais avoir 8 ans. Et en fait, ce sont été mes premiers professeurs de théâtre. Et je pense qu'ils ont laissé une empreinte indélébile en moi, qui, quelques années plus tard, a pris toute sa mesure. Pour vous la faire courte, ensuite j'ai fait une licence de lettres modernes. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai aimé les études. Mmh. En fait, il y avait quelque chose qui me plaisait dedans. Pour la première fois de ma vie, peut-être, j'ai trouvé ma place. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on fait une licence de lettres modernes, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après?
Oui.
Voilà, donc j'étais rapidement confronté à ça. Je ne voulais pas faire de master, du coup, dans l'enseignement, vu que mes parents étaient profs. Il y avait une sorte de rejet. C'était soit l'enseignement, soit la recherche. Effectivement, j'avais pensé à Musset. J'avais pensé à faire un master sur Musset. Et finalement, non, je me suis quand même un peu interrogé intelligemment, on va dire. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime dans mes licences? Et la réponse, c'était les mots. J'aimais franchement profondément les mots. Et même maintenant, quand j'y repense, il faut que je réussisse à écrire là-dessus. Pourquoi j'aime les mots? Et quand je pense aux mots, je pense en fait à ma mère, à mes grands-mères, à mes tantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, dans cet héritage lusophone, ce sont les femmes plus que je vois parler avec véhémence, avec brio, avec habileté dans cette prise de parole qui se fait dans ces histoires racontées. Il y a quelque chose de très théâtral. Mmh. Moi, j'ai une tante à Fontainebleau qui est exceptionnelle quand elle parle. Et c'est des femmes qui donc ont quitté le Portugal à un certain âge déjà. Elle était déjà mariée, ma tante Slasht. Donc à 20 ans, je pense, qui ont appris à parler un très bon français. Et il y a un art de la parole, bref. Donc les mots, Et entre-temps, je me suis fait larguer, pour tout vous raconter. Le mec, ça vient se faire larguer. Et là, je me dis, vas-y, bah, du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie après la licence et tout? Et en fait, j'avais, pour le coup, besoin de remplir un vide. Et du coup, le théâtre a été la réponse. Donc, en fait, j'étais dans une ville, Albi, et en fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Vraiment. Je me suis dit, ok, vas-y, je veux ça, j'ai soif de ça. Donc, j'ai pris une deuxième troupe d'impro, un troisième truc avec l'une de mes professeurs, et j'en voulais plus. Donc là, je me suis dit, ok, l'année d'après, j'ai fait une L3 d'études théâtrales à Toulouse. Et là, j'ai eu la chance en même temps de faire une formation dans un théâtre. Donc du coup, là, pour le coup, c'était vraiment le moment de séparation où je venais de faire 3 ans de lettres, où j'étais une sorte d'intellectuel, on va dire, quelqu'un qui pense un art, et je commençais à être vraiment plus dans l'autre, dans la création, dans celui qui va faire un art. Et je me rendais compte que je préférais faire. Donc après ça, j'ai décidé de venir à Paris pour faire une petite école. J'avais tenté les cours Florent, mais je me méfiais un peu parce que c'était un grand truc. Voilà. Donc j'ai trouvé les cours Cochet que j'ai fait pendant 3 ans. Alors pour la réputation, c'est l'école de Lucchini, de Depardieu, même si aujourd'hui il y a une mauvaise réputation, de Carole Bouquet. Isabelle Huppert avait eu Jean-Laurent Cochet comme professeur. Alors, maintenant, c'est un monsieur qui est décédé, mais que j'ai pu avoir en première année. Tous les mercredis, on l'avait. C'était un vieux monsieur, mais c'était un maître. Bon, à l'époque, après voilà, c'était quelqu'un qui était resté un peu dans les années 50, donc ça pouvait être compliqué parfois humainement et politiquement, mais artistiquement c'était la folie. Donc je me suis formé, on va dire, pendant ces 3 ans là, et après j'ai donc travaillé. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler avant de finir mes études de comédien. Et donc là, ça fait 6-7 ans déjà que je bosse, ça fait 6-7 ans que je suis intermittent. J'ai tout pris. Au début, j'ai vraiment, alors je sais pas justement si c'est aussi un héritage de nos cultures, notre culture du travail portugais, de faire beaucoup et de tout prendre. Après, j'avais aussi, j'étais plus jeune, donc j'avais cette énergie-là. J'ai vraiment eu besoin de tout saisir. Et c'est tout récemment que je commence maintenant à me dessaisir pour commencer un peu à choisir ce que je veux faire ou surtout ce que je ne veux pas faire.
Juste pour revenir sur le statut d'intermittent du spectacle, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Comment est-ce qu'on l'obtient et à quoi ça sert?
Alors, le statut d'intermittent est un luxe français. C'est-à-dire que ça n'existe qu'en France, dans tous les autres pays du monde, ça n'existe pas. Je crois que l'Irlande, si récemment, vient de mettre un peu un truc en place similaire. C'est une sorte de... Alors moi, j'appelle ça un salaire des artistes. C'est-à-dire que c'est l'État français qui nous donne un salaire mensuel pour que nous ayons du temps pour créer. Parce que créer, ça demande du temps,
oui, clairement.
Ça demande de l'énergie. On ne se rend pas compte, mais voilà. Il faut, dans une création, il faut décanter, il faut créer, il faut invoquer. Il y a plein de choses, plein de phases différentes, plein d'éléments. Pour l'obtenir, il faut 43 cachets dans l'année. 43 cachets en 12 mois. En gros, un cachet, c'est pas un cachet d'aspirine, c'est une représentation. C'est-à-dire que Maryse, quand elle a joué, elle a fait un cachet. Dan, Isabelle et Simon, quand ils vont jouer, pareil, ça va refaire un cachet. Donc le but, c'est dans ce laps de temps d'atteindre les 43. Bon, souvent, on fait beaucoup plus pour en fait faire augmenter notre taux et pouvoir accéder à ce salaire. Alors, on passe par France Travail, c'est considéré comme des indemnités. Voilà, on est considéré comme demandeur d'emploi, ce qui est toujours un petit peu délicat comme statut, parce que même si ça nous donne beaucoup d'avantages pour les musées, pour tout l'accès à la culture, c'est dur. Cette appellation est très dure, parce qu'on n'est clairement pas en train de demander des emplois, vu qu'on fait déjà notre métier, et c'est un métier passion. Donc, il n'y a très rarement, il n'y a jamais de routine. Enfin, la routine est très rare. On s'ennuie jamais. Par contre, on est aussi confronté à une forme d'instabilité qui peut être financière.
Oui, ça peut être précaire.
Et mentale aussi. On n'en parle pas assez de cette instabilité. C'est un vrai espace mental que ça prend tous les jours. Il faut savoir s'écouter, connaître ses limites et savoir se chouchouter. Et c'est pas toujours évident de se donner cet espace-là de chouchoutement naturellement.
C'est clair.
Mais voilà, l'intermittence permet ça, pendant un an, d'être tranquille, d'avoir ce statut-là pour vivre.
Sur une autre thématique dont tu as parlé là tout à l'heure aussi, est-ce que tu estimes que ta double culture influence ton jeu?
Oui, complètement.
Comment ça?
Complètement. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé en parlant de Célio, justement, de romantisme. Et pour moi, la culture portugaise... Alors hier, comme tu disais, c'était la journée de la Saudade. Mais il y a quelque chose. Le peuple portugais, je veux dire le peuple romantique, le peuple portugais a quelque chose de romantique en lui. Dans ce passé, dans cette manière de ressentir les choses. Donc, Ta question, c'était quoi, pardon, excuse-moi, est-ce que la culture portugaise influence
ton jeu, ta double culture, en fait.
Oui, du coup, je pense que ça le nourrit. Voilà. Je pense que pour tous ces rôles-là, un peu romantiques ou un peu passionnés, je pense qu'effectivement, la culture portugaise l'influence. Et c'est intéressant parce que ça ne va pas l'influencer directement par des grandes œuvres. J'ai plus, comme je le disais un peu avec mes tantes, c'est plus des petites choses du quotidien, en fait, qui m'ont été transmises, des comportements. Ouais, qui me sont transmis, que je peux ensuite incarner dans mon souffle théâtral.
C'est beau. Et on va rester dans ces beaux mots, puisque justement, tu vas nous lire un poème.
Oui.
Un poème de Victor Hugo.
Oui.
Qui s'appelle Le mot.
Oui.
Rapidement, pourquoi ce poème? Et ensuite, tu nous le lis.
Parce que je l'aime bien.
ça suffit, hein.
Pourquoi ce poème aussi? Parce que Victor Hugo est pour moi quelqu'un d'incroyable. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Et je trouve ça fou la dimension qu'il avait, effectivement, de poète artiste. Et pourtant, je trouve qu'il avait, ça, je ne sais pas si on l'a retrouvé depuis, mais une dimension, une puissance politique qui était absolument incroyable. J'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que ça vous est arrivé récemment, justement, d'avoir pas un mot malheureux, mais de dire quelque chose que vous ne pensiez pas forcément, ou d'avoir une sorte de maladresse langagière?
Oui, c'est la maladresse, oui. Après, ouais. Des mots que je pense pas, ça m'arrive très rarement quand même.
Ok. Et toi?
Moi, je pense que c'est plutôt des enfin, c'est pareil, c'est des mots que je pense, mais parfois, ça, j'ai toujours peur que ce soit mal interprété.
Oui.
Donc, ouais. Je pense que ça peut m'arriver assez souvent, oui, d'être maladroite.
Et ça te crée des soucis ou pas? Ou
ouais, ça me stresse.
Ah ouais?
Parce que j'ai très peur de blesser une personne, alors que c'était pas forcément le sens que je voulais mettre à ces mots. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a beaucoup d'importance aussi.
Ok, c'est intéressant parce que donc, du coup, Victor Hugo en parlait déjà à l'époque en ces termes. Braves gens, prenez garde aux choses. Peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci, tête à tête, en pantoufles, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle, il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau, sans bateau, dans la saison des crues, et va tout au travers, un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage. Il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et railleur, regardant l'homme en face, lui dit « Je viens de la bouche d'un tel ». Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel.
Waouh ! Je connaissais pas du tout ce poème, hein.
Voilà, Victor Hugo, 1830, 1840 à peu près, je dirais.
Bah bravo, ouais, comme ça on a pu avoir un aperçu de ton jeu d'acteur. Donc n'hésitez pas à aller voir Les Caprices de Marianne. On va écouter tout de suite une musique que tu as choisie.
Oui.
C'est Cette guerre de Ben Mazuet.
Tu parles à personne, cette guerre, celle dont tu parles à personne. Faut la mener cette guerre, même si tu la perds, même si tu la termines, même quand c'est la paix. Faut la mener cette guerre, même si tu la perds, même si c'est la dernière, même quand tu la tais. Moi je te reconnais, entre nous on se reconnaît, entre nous. Nous qui traînons nos mal-être incognito dans le peuple, qui pensions ne pas l'être, mais qui sommes fucked up. Nous qui purgeons nos colères en courant chaque matin, qui saoulons nos chagrins, nos douleurs dans le vin. Et la peur de la mort, on la transforme en effort, on l'évacue. On l'évacue. On l'évacue dans le sport. Tu règles rarement tes problèmes, rarement tes problèmes. Alors pour oublier, tu cours et tu rêves de pause et de trêve, de ranger ton glaive et ton bouclier. De ranger ton glaive et ton bouclier. J'espère, j'espère. Tu vas la gagner cette guerre, celle dont tu parles à personne. Cette guerre, celle dont tu parles à personne. Cette guerre, celle dont tu parles à personne. J'espère, j'espère que tu vas la gagner cette guerre, celle dont tu parles à personne. Cette guerre, celle dont tu parles à personne. Cette guerre, celle dont tu parles à personne.
Se promet d'arrêter, se promet d'arrêter, d'arrêter.
Et au-delà de ta carrière du coup de comédien, mm-hmm. tu donnes également des cours.
Tout à fait.
Depuis quand et
depuis
où
cette
ça
année. Depuis septembre, à Verneuil-sur-Seine, pour l'association Théâtre en Seine. Et j'interviens aussi dans un collège à Gennevilliers, en REP+, avec mon amie Estelle Hernandez. C'est sa classe de 5e H. Alors, avec eux, on travaille sur des scènes de Molière axées sur les conflits familiaux. Voilà, c'est un, très intéressant comme travail, surtout que les élèves ont énormément de choses à donner.
Oui.
C'est fou.
Comment t'as décidé, toi, de commencer à enseigner alors que tu voulais pas être prof
ouais.
de base?
Alors, c'est ça. J'ai même notamment, donc, prof de français, ça aurait été une sorte de continuité un peu logique comme, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, prof de théâtre, il y a quelque chose qui me dérange pas. Mmh. C'est quand même, si je deviens prof de français, c'est un peu par défaut. Il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans. Alors que prof de théâtre, c'est comme tu parlais de passion tout à l'heure, je sais que j'aime ça, je sais que je peux le défendre, je sais que je peux l'amener. Donc du coup, j'ai pas eu ce blocage-là, non. Je l'ai pas eu.
Ouais, c'est plus voilà. dans la transmission.
Ouais, et franchement, c'est... En fait, c'est lourd de sens. Mais pour le coup, lourd dans le sens hyper positif, c'est que... Enfin, ça me dépasse. Mmh. Et de réussir à donner ça à des jeunes, c'est incroyable.
Ouais, ouais. Je comprends. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu marquante ou touchante que tu aurais
ah ouais.
vécu?
Ah ouais, 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 ouais.
Faut choisir une, hein.
Ouais, qui est tout récemment, donc, mon groupe d'ados de Verneuil-sur-Seine, ils ont dû présenter une scène pour les journées théâtrales. Et c'était le 17 janvier, voilà. Et j'ai pour eux retranscrit une scène du Palmachot qui s'appelle Le remaniement du gouvernement. Voilà, donc c'était très drôle, ils faisaient différents ministres voilà, qui sautent, qui reviennent, qui vont à droite, qui vont à gauche. Et dans mon groupe, j'ai notamment un jeune homme qui est autiste. Et ça se passe très très bien avec lui. Ça se passe vraiment très bien, je lui donne un petit rôle et tout. Et ils ont joué, ça s'est très bien passé, j'étais super fier d'eux, j'étais très content. Et ça pareil, c'est un sentiment que je ne connaissais pas forcément. Mmh. Et j'étais en coulisses, j'étais totalement impuissant. Alors quand t'es comédien, t'as le contrôle. C'est toi qui es sur scène, oui. C'est toi le maître. Quand tu deviens prof ou metteur en scène, tu fais totalement confiance aux autres.
C'est
bref,
stressant. Hein.
C'est hyper stressant, ouais. Et en même temps c'est grisant. Et donc la scène se passe très très bien, tout le monde est ravi, mes élèves sont super contents. Et après j'ai la mère du coup de cet élève qui est venue me voir et qui m'a remercié. Et la manière qu'elle a eu de me remercier... Il y avait quelque chose de la sincérité était plus profonde que toutes nos sincérités. C'est-à-dire que nous tous, dans nos vies, on vit nos trucs à droite, à gauche, demain, hier. Elle, la manière dont elle me le dit, la manière qu'elle m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux, dans le fond de son âme, quelque chose qui était plus profond.
Ouais.
Et ça m'a chamboulé. Franchement, et ça, tu vois, pour le coup, ça, c'est un souvenir. Qui est récent. Il y a deux semaines.
Ah oui.
Qui change tout.
Mais c'est là où t'as l'impression que ce que tu fais a vraiment du sens, quoi.
Exactement.
Ouais.
Ouais.
Et pour finir, donc là, on peut te voir jusqu'au 29 mars
ouais.
Au guichet Montmartre pour les Caprices de Marianne
oui.
tous les dimanches
oui.
à 20h.
Oui.
Prenez vos places sur
oui.
Bière et Duc.
Oui.
Mais est-ce que tu as d'autres projets à venir?
Alors, c'est du gros teasing ce que je vais faire là parce que rien n'est encore vraiment créé. Pour le moment, c'est juste de la discussion, mais bon, allons-y. Le 22 octobre dernier, j'ai pu créer... Alors, à l'époque, on a appelé ça soirée littéraire. On va changer le nom. C'est des soirées, en fait, où on mêle poésie et musique. Et je pense que, donc, actuellement, on est en train de réfléchir à faire une deuxième édition d'un des bars plutôt underground, plutôt rock, ou alors un café dans le 18e, qui a une salle aussi, où vraiment, voilà, on va alterner entre lectures. Pour le coup, c'est pas du par cœur, c'est que des lectures et de la musique et du chant. Donc, je connais quelques artistes qui pourraient être intéressés. Voilà, c'est encore les premières éditions. Donc, il y a quelque chose de très libre. On est une grande bande de potes qui faisons ça. Je ne me fais aucun argent là-dessus. C'est vraiment pour l'amour de l'art, pour le sens, pour le fait de réunir les gens autour de ça. Et donc, alors à la base, je pensais au thème de l'irréel, mais mine de rien, ça demande un certain temps de rechercher une littérature, de rechercher des poèmes là-dessus. Donc finalement, je pense que, et je trouve même ça mieux, ça sera autour de poèmes écrits uniquement par des femmes, et notamment autour de Anna de Noailles.
Ok, voilà. Bah, tu nous tiendras au courant.
Exactement, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou quoi, je sais pas. Mais
Instagram, c'est très bien. Alexandre.
Alexandre. Mais il faut que je change, mais malheureusement, tous les Alexandre Fernandez existent déjà, sont déjà privés. Voilà, n'hésitez pas, restez, voilà. On va essayer de sortir ça pour au mieux février, sinon mars. C'est un bon moment de poésie et de musique libre entre copains. Donc venez, vous êtes les bienvenus, on va vivre ça ensemble, ça sera un peu unique. Et venez.
Eh ben merci beaucoup Alexandre. En attendant, allez voir Les Caprices de Marianne. Oui. Vous pouvez déjà prendre vos places pour demain s'il en reste.
Oui.
Et restez avec nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport avec Clarisse. Et en attendant, nous allons écouter la dernière musique que tu as choisie. Une musique que tout le monde adore.
Oui.
Et à juste titre, Memorie de Rosalie et Carmigno.
Diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que he vivido. Diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim.
Rádio Alva. Agora no Tempestade 2.1.
Stade de Chponton sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Clarisse.
On commence très fort cette semaine avec le séisme de Lisbonne Sporting. Les Lions valident leur billet direct pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est historique, c'est la première fois que ça arrive. Une septième place arrachée avec brio devant les plus grands d'Europe. Le miracle Trubin, on ne s'en lasse pas. Ce but de la tête du gardien Anatolini Trubin à la 98e minute pour battre le Real Madrid 4-2 est déjà légendaire. Benfica accroche la 24e place et retrouvera le Real en barrage. Ligue Portugal, Porto maintient son avance de 7 points en tête du championnat et se renforce avec l'arrivée de Terem Mofi. En handball, une cinquième place historique. L'exploit, les Heroes do Mar ont battu la Suisse 36-35 lors du match de classement. Record pour le Portugal car il décroche ainsi la cinquième place. Autant vous dire que c'est le meilleur classement de l'histoire. Meilleure place au monde pour cette sélection, prouvant que le hand portugais fait désormais partie de l'élite absolue. Côté natation, une pluie de médailles en Suisse. La délégation portugaise repart d'une compétition internationale avec 9 médailles, confirmant la montée en puissance de nos nageurs sur la scène européenne. Côté escrime, en Espagne, le jeune Xavier Melo a brillé lors du tournoi M17 en décrochant une magnifique médaille d'argent. L'avenir de la lame portugaise est assuré. Côté cyclisme, le jeune prodige Antoine Morgado a fait sensation lors du challenge cycliste de Mallorca en Espagne. Sa forme en ce début de saison laisse présager de grandes choses pour les classiques. Sur quatre roues, Antoine Félix de Coste prouve qu'il est l'un des meilleurs pilotes au monde en décrochant une solide deuxième place en catégorie LMP2, portant haut les couleurs nationales en endurance. En snowboard, Tomáš Gooding, le roi de la poudreuse, exploit au parc and pipe. On n'attendait pas forcément le Portugal sur ce terrain et pourtant, Tomáš Gooding a survolé la compétition en remportant 3 médailles marquant l'histoire des sports d'hiver lusitaniens. C'est sans doute l'une des semaines les plus intenses pour le sport portugais, toutes disciplines confondues. En tout cas, on est partout.
Merci beaucoup, Clarisse. C'est vrai qu'on est partout.
C'est incroyable.
Et d'ailleurs, en foot, du coup, il y en a pour les 3 clubs. Mais toi, Alexandre, tu es pour qui ?
Je suis pour Benfica.
Très bon choix.
Oh non !
Désolé.
Très, très bon choix. Ça va, Clarisse, tu as eu ton moment de gloire aussi cette semaine.
C'est vrai, c'était un plaisir parce que d'habitude, je suis toute seule pour Sporting.
C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup, Clarisse. Et juste après, on change de registre. Ce sera Anto, le Discard Porto. Et tout de suite, on s'écoute une nouveauté lusophone sortie hier. Non Deixe de Nelson Freitas et Nun Ribeiro.
Tanta saudade, quando dizia não tenho medo que a chama apaga. Ai, sei que é verdade, quando não cuido deixas que a vida entrega quem sabe. Numa casa que era pra dois, hoje em dia onde nós não cabe. E o silêncio deixa pra depois, o que antes era prioridade. Então fala, se estamos no fim da estrada, ou se há uma via no mesmo sentido pra te abraçar. Ai, 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 ai. Se há uma via no mesmo sentido pra te abraçar. Ai, 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 ai. Ei, cabeça não quer mais, o meu coração não deixa de amar. Álbum de fotos tem páginas soltas. Sem ti, os filhos perguntam quando é que tu voltas. Tu sabes, já tivemos tantas fases, mas aquilo que tu não fazes, dito o nosso fim. Numa casa que era para dois, hoje em dia onde nós não cabe. E o silêncio deixa para depois, o que antes era prioridade. Então fala, se estamos no fim da estrada, ou se há uma via no mesmo sentido pra te abraçar. Ai, 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 ai. Se há uma via no mesmo sentido pra te abraçar. Ai, 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 ai. Cabeça não quer mais, o meu coração não deixa de amar.
O que será que o António voltou a encontrar hoje?
Está a ouvir o Tempo Está de 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Antônio Discard Porto. Então, o que será que o Antônio voltou a encontrar hoje?
E encontrei várias coisas. Não vou só falar de um artista ou uma só pessoa, mas de vários, porque na semana passada foram publicadas publicada a lista dos participantes ao Festival de Canção 2026. Não sei se já aqui alguns tiveram a oportunidade de irem descobrir isto tudo.
Eu vi a lista, mas não fui ouvir nenhuma música.
Ah, tu, Liana.
Ainda não.
Então vais passar por conhecer agora, porque não vamos poder ouvi-las todas, mas vamos ouvir uma parte entre elas. E não faz mal, a sério. E vamos fazer um primeiro resumo de todas estas participações, porque há muitos, são 16, e continuaremos a reagir ao concurso ao longo das próximas semanas. Primeiro, só para relembrar um pouco as coisas básicas, o Festival da Canção, o que é? É organizado cada ano para determinar qual o artista a enviar à Eurovisão, o Festival Europeu da Canção. Por enquanto, temos 16 candidatos, como tinha dito, individuais ou em grupo, entre os quais escolher, com vários estilos e personalidades fortes. E 8 foram escolhidos pela RTP diretamente. São o André Amaro, Bandidos do Quente, Bateu, Matou, Cristina Branco, Joji, Evaia, Inês Souza e Marquise. Talvez já reconheça algum desses nomes. 6 outros foram selecionados por um júri, depois de uma fase de candidaturas onde qualquer pessoa residente em Portugal ou portuguesa no estrangeiro podia candidatar. Até podíamos ter candidatado nós, com a Julia Okend, por exemplo.
Claro, imagino bem.
Imagino também. Isso chama-se a livre submissão, e inclui, então, depois da escolha do júri, os grupos e os artistas Agridoce, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacareu, Rita Dias e Sandrino. E finalmente, para completar tudo isto e atingir os 16 candidatos, temos Dino, que foi escolhido graças à prova de acesso entre os vários candidatos através das escolhas da música, as diferentes escolas de música portuguesa em Portugal, e a banda Nunca Mais o Mandarim, apontada pelos NAPAS, os candidatos do ano passado à Eurovisão. Então, essas duas semifinais acontecerão no final de fevereiro, dia 21 e 28, onde serão selecionadas as 10 canções da final, que ocorrerá a semana logo a seguir, dia 7 de março. Tudo isto vai acontecer num ritmo mesmo intenso, um evento por semana, e vai ser um prazer seguir isto tudo juntos. E, sobretudo, vamos poder descobrir assim quem será escolhido para representar Portugal na Eurovisão em maio, na Áustria. Então vai ser uma competição muito especial este ano comparada às precedentes, tendo em conta que vários países decidiram boicotar o evento por causa da participação de Israel em protesto à guerra e ao genocídio que ainda hoje traumatizam e matam milhares e milhares de pessoas e civis em Gaza. Portugal decidiu manter a sua participação, contrariamente aos nossos vizinhos espanhóis, que sempre tiveram uma posição mais clara sobre o conflito, e também como a Islândia, a Irlanda, os Países Baixos e a Eslovénia. Se pormos de lado os conflitos morais com o fato de participar na competição, pode ser também uma ocasião nova para Portugal de destacar-se com uma música forte e também com uma mensagem forte e clara durante a competição. E é assim que vamos ouvir juntos uma seleção destas músicas, algumas inteiramente, outras só excertos para podermos falar delas entre nós. E vamos começar com uma das músicas com as quais eu fiquei mais convencido. É agora, vamos ouvir Gonçalo Gomes, Doce Ilusão.
Passei ao lado, não fui capaz de ouvir a tua voz. Também não estranho seres incapaz de fazer algo por nós. Mas esta dor de uma força tão atroz faz-me pensar no futuro a sós.
que vamos ouvir um dos artistas que vão participar no Festival da Canção 2026 daqui a um mês. Era o Gonçalo Gomes e a sua faixa Doce Ilusão. Por minha conta, quando a primeira vez que ouvi esta música, fiquei bastante surpreendido com a energia, porque tem várias inspirações tradicionais portuguesas, com notas de guitarra clássica portuguesa, até na maneira de cantar um pouco tipo fado, mas com essa energia quase rebelde, agressiva, que é, na minha opinião, fora de comum.
É um pouco pop e fado ao mesmo
exatamente.
Tempo.
Exatamente, mas de uma maneira diferente.
Mas de maneira diferente da Ana Moura, exatamente.
Exatamente. E não sei se conheceu este artista aqui.
Não.
Eu tenho que confessar que também um pouco. Também não. Ele foi escolhido graças à livre submissão do qual ele estava a falar. Logo antes, onde a Julia e eu poderíamos ter participado. E ele foi escolhido pelos júris nacionais para participar no Festival da Canção. Quando ele estava a acabar, só para dar um pouco de background sobre ele, ele já tinha participado no The Voice de Portugal e não chegou a ganhar esta edição 2023, mas talvez seja algo premonitório para a Eurovisão, ou pelo menos para o Festival da Canção. Ele tinha passado as provas cegas graças a uma interpretação da música Amar pelos Dois, de Salvador Sobral. Então, talvez ele tenha agora uma maior chance de sucesso. Ele agora, desde estes anos, tem um estilo mais definido e com essa música vai tentar concorrer no Festival da Canção e na Eurovisão. Para continuar, vamos ouvir agora um excerto de seguida de músicas que saiam um pouco do comum da música portuguesa, da pop portuguesa, porque vão tentar misturar estilos e influências mais internacionais, perto do indie rock, ou até do Eurodance, para algumas. Vamos ouvir agora Marquise, que é uma das músicas que também marcou-me, e vamos ouvir agora um excertozinho. Eu sei que estou totalmente influenciado pelos meus próprios gostos musicais, mas eu gosto imenso desta música. Era Marquise, uma banda de rock do Porto com a sua faixa Chuva. O que é que pensaram desta?
Gosto muito. Gostei. Também. Honestamente, acho que vai ser complicado escolher uma só pessoa para a Eurovisão.
Sobretudo agora com 16 faixas que todas são incríveis.
Não, mas eu acho que o ano passado, se calhar, foi mais simples, não sei explicar. Mas porque a música do Gonçalo Gomes, que ouvimos também há pouco, também é muito fixe.
É, e até nesses estilos mais próximos do fado ou da canção tradicional portuguesa, havia também outros candidatos, como o Diniz Mota, que com a sua faixa Jurei, que é impressionante, e convida de cada pessoa a irem ouvir.
Que ouvir todas.
É, claro. Eu passei um momentinho antes de ontem a ouvi-las todas, e são mesmo incríveis.
Mas vamos passá-las também no tempo estado.
Sim, pouco a pouco.
Fica atento.
E um pouco mais perto deste, estavas a falar logo antes dos Napa, tiveram um grande sucesso, tanto
ainda
no Festival da Canção, e ainda têm, claro. Eles escolheram para, tipo, a sucessão, uma música, um grupo que eles conhecem bem, que é o Nuca Matos, o Mandarim.
Que do adoras label. Tu?
Eu adoro muito imenso, claro.
E que a Laura também adora, beijinhos a ela.
E queria passar um excertozinho só da sua canção Fumo, que vão apresentar ao Festival da Canção. E vamos ouvi-lo agora, é Fumo, dos Nunca Mates, o Mandarim.
Metem-te balas nos olhos e tiram fumo para o ar. Mandam-te areia para os olhos
tire en fume pro air. Quand c'est vraiment mort.
Então, essa é bem mais calma, por exemplo, comparada às precedentes.
Mas tem... muito fixe também.
Também, sim. Também. E há músicas de várias energias, não pude passar todas. Nessa vibe um pouco também internacional, temos também a Ivaya, com a sua música Sprint, com mesmo uma instrumentação muito intensa, com sintetizadores dignos da Eurodance ou coisas assim. Também pode ter um grande sucesso no cenário internacional, porque são... Também é preciso compreender que não é só no Festival da Canção e na Eurovisão escolher uma música da qual gostamos ou que até representa Portugal. É também saber que se queremos conquistar um público internacional, temos de ter um conjunto de vários elementos que são da representação do nosso país, da nossa língua, da nossa cultura musical, mas também transmitir uma ideia, uma emoção forte. E penso que essas três músicas que já passámos e outras que vamos passar logo ao fim desta rubrica têm esse potencial. Então, só para resumir um pouco para as músicas que não podemos ouvir ou falar antes, mas que vamos passar daqui a umas semanazinhas, temos também uma canção de André Amar, Dá-me a Tua Mãe, que é bem calma, muito simpática, que eu gostei muito. Bateu, Mateu, com Nos Teus Olhos, Bandidos do Canto, que é uma banda também... Tínhamos passado uma música deles durante o verão, que era muito fixe, mas desta vez trouxeram-nos Rosa. Temos Francisco Fontes com uma vibe indie rock também, com a sua muito próxima dos Nuno de Camacho e Madeirinho. Então, se gostarem, podem ir ouvir as suas outras faixas. A sua música que vai apresentar é Copiloto. E depois vamos sair um pouco desta cultura clássica da música pop portuguesa. E temos também o Jaquereu e Ana Margarida com a sua música Opinião, bem separadinho assim, Opinião. E é mesmo incrível essa música. Tem até uma música, parece uma música engraçada, é bem dinâmica, convido a irem ouvi-la. E temos Sandrino, Disposto a Tudo, com esse cavaquinho incrível e uma energia e influências brasileiras claras, que também podem ter um grande, grande sucesso. Não pude falar de tudo, mas para acabar esta rubrica vamos ouvir uma das minhas outras músicas favoritas deste conjunto de músicas, das 16 músicas do Festival da Canção. Vai ser a música do Mário Marta, Pertencer, que foi composta pelo Joji, um artista do qual gostamos muito. E para mim até parece uma música de filme, com tantas emoções e um cenário cinemático esta música. Então vamos acabar com isto.
Obrigada, Antonão. Vamos a isso, ouvir Pertencer, de Mário Marta, e voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plan.
Querer sentir em casa saudade. Pele, para além do nome, há tudo afeto, acalma a tristeza do ser. Deixar doer alivia. De onde venho trago um abraço, da pureza de um sorriso. Amar em mora beza, saber deixar pertencer, é da vontade de Deus cumprir o meu viver. Olele, olê, olele, olele, olê, olele, olele, olê, olele, olele, olê, olele, olele, olê. Assim pode ser, está em nós a força.
eu trago um abraço na pureza de um sorriso. Amar e amor a beza, saber deixar pertencer é da vontade de Deus cumprir o meu viver.
Toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestadt de Sponton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, je vous invite encore une fois à aller donner de l'argent dans la cagnotte pour le Portugal et tout ce qui s'est, enfin toute la tempête Christine qu'il y a eu. Toutes les infos sont sur le site de Radio Alpha, sur les réseaux sociaux de Radio Alpha et un peu partout sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de Tote Jaune France aussi. Donc n'hésitez pas, même 1 euro, même 50 centimes, ça peut faire la différence si tout le monde s'y met. N'oubliez pas non plus de vérifier votre lieu de vote sur recensement.pt puisque le second tour des élections présidentielles portugaises aura lieu le week-end du 7 et 8 février, donc littéralement la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas vraiment d'aller vérifier et puis d'aller voter dans votre consulat qui sera ouvert de 9h à 19h le samedi et le dimanche. Pour les événements à venir, donc ce soir a lieu la pièce Saudade du théâtre, la pièce de théâtre Saudade ici et là-bas sera jouée donc à Champigny-sur-Marne ce soir à 20h30 au théâtre Gérard Philippe. Pour rappel, c'est une pièce écrite par Isabelle Ribeiro et jouée par Isabelle Ribeiro, Danninger du Santos et Simon Quintana, mise en scène par Alexis Desceaux. Il reste encore quelques places. Lionel Cecilio se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. N'oubliez pas de prendre vos places pour le concert de David Carrera qui aura lieu le 14 février au Grand Rex. Il était il y a quelques semaines, la semaine dernière sur Themestadt de Sponton. Et vous pouvez aussi prendre vos places pour l'Accor Arena des Kalema le 21 février. Il y a plein d'autres dates dans un peu toute la France. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ce sont toujours des concerts incroyables, évidemment. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda du zoo. N'oubliez pas de suivre Themestadt de Sponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre.
Merci.
J'espère que ça t'a plu.
Oui, énormément.
On a passé un très bon moment aussi avec toi, tout en poésie, tout en acting, en monde du théâtre. Je pense que c'était une très belle émission. En tout cas, nous, on a passé un bon moment.
Muito obrigado.
Tu rappelles tes réseaux sociaux?
Oui, tout à fait. Alors, sur Instagram, je m'appelle Alexandre Andre. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai reçu un message me disant effectivement que si vous voulez des places réduites, pour venir voir les caprices de Marianne, écrivez-moi sur le fameux Alexandre Andre, et on trouvera une solution pour que vous veniez à moindre coût.
Ça reste entre nous, bien sûr, voilà, sur Themestadt de Sponton.
C'est une exclue, t'as pas
excellent. Mais n'oubliez pas donc d'envoyer un message à Alexandre ou de prendre vos places sur Billets Réduc pour les caprices de Marianne tous les dimanches à 20h au guichet Montparnasse. Merci. Est-ce que tu veux faire des dédicaces? Ton papa nous écoute?
Oui, je crois que mon père m'écoute. J'ai reçu des petits messages de mon père, de ma sœur, de ma tante et ma cousine aussi. Je ne sais pas si elle m'écoute encore, mais voilà. Sachez que je vous embrasse tous très fort. Et puis aussi pour mes amis et mes collègues, voilà, si jamais vous venez poser une oreille sur cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas maintenant à moi de rendre l'appareil sur la promotion. N'hésitez pas à écouter cette belle émission Themestadt de cette jolie luso-descendance qui se tient devant moi et qui est pleine de promesses.
Merci beaucoup. Disponible en podcast, je le rappelle quand même. J'en profite pour continuer la com. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse avec I Used to Go to This Bar de Joyce Manor. Bonne semaine à tous.
À la semaine prochaine.
Ciao, oh. Ciao. But that ain't what keeps me awake. It's not the money, it's the love you. But photographs I'll never show you. Time goes by so quick.
Tempestade 2.1. O programa dos luso-descendentes e dos luso-dependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e podcast do site Rádio.